tout à la sans l'ordre et à la débandade. Lorsqu'une fillette a l'amour en tête, va te faire en l'air, hein. Et sa sœur, hélas, cette noble Henriette, qui maintenant pliait, comme on dit, sous le fardeau. Parfois, elle se prenait la tête dans les mains, doutant de tout, de la famille, des principes, de la société même. « Ce sont des mots !» criait-elle. Un jour, elle avait rencontré Olympe, vêtue d'une petite robe noire, en cheveux et une petite jatte de fer blanc à la main. Henriette, en passant, sans faire semblant de la reconnaître, lui avait dit, très très bas, « Ma sœur, votre conduite est inqualifiable. Respectez au moins les apparences. » Peut-être par ces paroles, espérait-elle un retour vers le bien. Tout fut inutile. Henriette sentit qu'Olympe était perdue. Elle rougit et passa. Il fallait une dernière tentative. Henriette se résigna donc à risquer tout, même le scandale. Un soir, elle apprit que la déplorable Olympe devait venir au café régler une ancienne petite dette. Elle prévint sa famille et l'on se dirigea vers le café lumineux. Pareil à la Malonia déshonorée par Tibère et se présentant devant le Sénat romain pour accuser son violateur avant de se poignarder en son désespoir, Henriette entra dans la salle des hostels. Le père et la mère, par dignité, restèrent à la porte. On prenait le café. À la vue d'Henriette, les physionomies s'aggravèrent d'une certaine sévérité. Mais comme on s'aperçut qu'elle voulait parler, les longues plaquettes des journaux s'abaissèrent sur les tables de marbre et il se fit un religieux silence. Il s'agissait de juger. L'on distinguait dans un coin honteux et se faisant presque invisible, Olympe et sa petite robe noire à une petite table isolée. Henriette parla. Pendant son discours, on entrevoyait à travers les vitrages les bienfilâtres inquiets qui regardaient sans entendre. À la fin, le père n'y put tenir. Il entrebâilla la porte et, penché l'oreille au guet, la main sur le bouton de la serrure, il écoutait. Mais des lambeaux de phrases lui arrivaient lorsqu'Henriette élevait un peu la voix. « L'on se devait à ses semblables. Une telle conduite, c'est de se mettre à dos tous les gens sérieux. Un galopin qui ne lui donne pas un radis, un vaurien. L'ostracisme qui pesait sur elle, dégager sa responsabilité. Une fille qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins, qui naguère encore tenait le haut du pavé. » Elle espérait que la voix de ces messieurs, plus autorisés que la sienne, que les conseils de leur vieille expérience éclairée, ramèneraient à des idées plus saines et plus pratiques. On n'est pas sur la terre pour s'amuser. Elle les suppliait de s'entremettre. Elle avait fait appel à des souvenirs d'enfance, à la voix du sang. Tout avait été vain. Rien ne vibrait plus en elle. Une fille perdue. Et quelle aberration, hélas! À ce moment, le père entra courbé dans la salle honorable. À l'aspect du malheur immérité, tout le monde se leva. Il est de certaines douleurs qu'on ne cherche pas à consoler. Chacun vint en silence serrer la main du digne vieillard pour lui témoigner discrètement de la part qu'on prenait à son infortune. Olympe se retira, honteuse et pâle. Elle avait hésité un instant, se sentant coupable à se jeter dans les bras de la famille et de l'amitié, toujours ouvert au repentir, mais la passion l'avait emportée. Un premier amour jette dans le cœur de profondes racines qui étouffent jusqu'au germe des sentiments antérieurs. Toutefois, l'esclandre avait eu dans l'organisme d'Olympe un retentissement fatal. Sa conscience bourrelée se révoltait. La fièvre la prit le lendemain. Elle se mit au lit. Elle mourait de honte, littéralement. Le moral tuait le physique. La lame usait le fourreau. Couchée dans sa petite chambrette et sentant les approches du trépas, elle appela. De bonnes âmes voisines lui amenèrent un ministre du ciel. L'une d'entre elles émit cette remarque qu'Olympe était faible et avait besoin de prendre des fortifications. Une fille à tout faire lui monta donc un potage. Le prêtre parut. Le vieil ecclésiastique s'efforça de la calmer par des paroles de paix, d'oubli et de miséricorde. « J'ai eu un amant !» murmurait Olympe, s'accusant de son déshonneur. Elle omettait toutes les peccadilles, les murmures, les impatiences de sa vie. Cela seulement lui venait à l'esprit. C'était l'obsession. Un amant, pour le plaisir, sans rien gagner. Là était le crime. Elle ne voulait pas atténuer sa faute en parlant de sa vie antérieure, jusque-là toujours pure et toute d'abnégation. Elle sentait bien que là, elle était irréprochable. Mais cette honte où elle succombait d'avoir fidèlement gardé de l'amour à un jeune homme sans position et qui, suivant l'expression exacte et vengeresse de sa sœur, ne lui donnait pas un radis, Henriette, qui n'avait jamais failli, lui apparaissait comme dans une gloire. Elle se sentait condamnée et redoutait les foudres du souverain juge vis-à-vis duquel elle pouvait se trouver face à face d'un moment à l'autre.